êtes au cœur des RFI Soir alors qu'il est 19h ici à Paris.
RFI Soir. Philippe Le Caplain.
Des faits, des reportages, des analyses à suivre, mais tout de suite, le grand journal. Et c'est avec vous, Adrien Delgrange, au sommaire. Tout d'abord, des négociations pour essayer d'arrêter la guerre en Ukraine.
Le président ukrainien participe en ce moment à une réunion internationale à Munich pour essayer de mettre un terme à ce conflit armé avec la Russie. Volodymyr Zelensky vient de s'entretenir avec le vice-président américain. L'actualité nous emmènera aussi au Proche-Orient où Israël attend la libération de 3 otages demain avant de libérer de nouveaux prisonniers palestiniens. Il n'y a pas que Donald Trump qui a des idées pour Gaza. L'Arabie Saoudite accueille un sommet de pays arabes pour reconstruire l'enclave palestinienne. En RDC, des affrontements à l'aéroport de Bukavu nous sont rapportés. Le pape François est hospitalisé à Rome. Et puis dans l'actualité française, à Grenoble, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau recycle son plan contre le narcotrafic. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. L'avenir de l'Ukraine au cœur de la conférence sur la sécurité de Munich. Des centaines de décideurs internationaux, dont le vice-président américain et le président ukrainien, sont donc réunis en Allemagne. Oriane Verdier, bonsoir.
Bonsoir.
L'Ukraine a dominé les échanges.
Oui, et si l'Ukraine était en effet le sujet principal, une fois n'est pas coutume, le président américain Donald Trump a imposé l'angle d'approche des grandes discussions internationales. En effet, son échange téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine il y a 2 jours et l'annonce de négociations en direct entre Moscou et Washington ont inquiété l'Ukraine, mais aussi les pays européens. Ces derniers le répètent, rien ne pourra se faire sans eux. Pas de paix en Ukraine sans l'implication de l'Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a profité de la tribune de Munich pour lancer un avertissement aux États-Unis.
Le président Poutine a déclaré qu'il était prêt à rencontrer les dirigeants ukrainiens. Mais à quelles conditions? Il lui appartient de montrer qu'il a renoncé à son ambition de détruire l'Ukraine. Et je vais être très clair, affaiblir l'Ukraine affaiblirait l'Europe, mais aussi les États-Unis.
Et ce soir, Oriane Verdier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce être prêt à rencontrer le président russe.
Oui, mais à une condition, la mise en place au préalable d'un plan entre Kiev et ses alliés américains et européens. Lors d'une table ronde plus tôt dans la journée, il a rappelé ses lignes rouges.
Ne prendre aucune décision concernant l'Ukraine sans l'Ukraine. C'est une position de principe sur laquelle nous ne reculerons jamais avec l'aide de nos amis d'Europe. Il est essentiel de ne pas perdre cette unité. Je suis si fier que nous fassions partie d'une Europe aussi forte.
La journée s'est terminée ce soir par une rencontre entre Volodymyr Zelensky et le vice-président américain J.D. Vance en marge de la conférence de Munich. Aujourd'hui, le représentant de l'administration Trump à Munich s'est fait remarquer sur un tout autre sujet, la liberté d'expression, qu'il estime bafouée par les démocraties européennes, qu'il accuse de censurer les mouvements d'extrême droite.
Oriane Verdier dans notre édition de 19h.
Et ces annonces de Donald Trump sur l'ouverture de négociations avec Vladimir Poutine ont pris de court les Européens.
Européens qui craignent d'être tenus à l'écart face à un Donald Trump qui s'érige désormais en maître du monde avec de nouvelles règles, un nouvel ordre mondial. C'est ce que Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, a expliqué à la mi-journée à Anne Cantner.
Lorsque Donald Trump invite en visite d'État Vladimir Poutine à Washington, lorsqu'il accepte d'aller à Moscou, le message est clair, le droit international n'a aucune importance, ce qui compte seulement, ce sont les rapports de force. C'est un nouveau monde qui est en train d'apparaître devant les Européens un peu ahuris, le monde d'une jungle, et le rêve européen d'un monde dirigé par le droit, le compromis, est en train de s'évanouir. Et il faut que les Européens se réveillent.
Gérard Araud. Il s'agit ni plus ni moins d'une réponse au plan de Donald Trump qui prévoit de transformer Gaza en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Un sommet pour reconstruire l'enclave palestinienne entre pays arabes est prévu. Pierre-Olivier, ce sommet se tiendra jeudi prochain, le 20 février, en Arabie Saoudite, à Riyad.
Les ambitions des États-Unis pour Gaza sont prises très au sérieux. Au Proche-Orient, témoigne ce sommet rapidement mis sur pied. 5 pays y sont attendus. L'Arabie Saoudite, bien sûr, en tant qu'hôte, recevra les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Égypte et la Jordanie, ainsi que des représentants de l'autorité palestinienne. Chacun devrait une nouvelle fois réitérer son refus d'un déplacement sans retour des Gazaouis, comme l'envisage le président américain, qui aimerait que l'Égypte et la Jordanie accueillent les habitants de l'enclave. Une idée qui avait provoqué un tollé sur la scène internationale, mais soutenue mordicus par Donald Trump, qui menace de couper l'aide américaine à ces pays s'ils refusent. En attendant ce sommet pour Gaza, le secrétaire d'État américain qui entame une tournée de 4 jours au Moyen-Orient a déclaré que pour l'instant le seul plan était celui de Donald Trump et que si les pays arabes en avaient un meilleur, c'était le moment de le présenter. Une présentation qui devrait avoir lieu après un deuxième sommet pour Gaza le 27 février, organisé cette fois par l'Égypte, qui a déjà annoncé qu'elle présenterait une vision globale pour l'enclave.
Pendant ce temps-là, Israël a reçu aujourd'hui les identités de 3 otages libérés demain. Après plusieurs jours d'incertitude, le Hamas confirme que 3 hommes seront libérés ce samedi en échange de la libération de prisonniers palestiniens détenus en Israël. On ne connaît pas encore le nombre de libérés côté palestinien.
Il est 13h06 sur la côte est des États-Unis. La bataille judiciaire là-bas continue autour des décrets présidentiels pris par Donald Trump.
Et ce revers, un juge fédéral de l'État de Washington vient de bloquer la suspension de l'aide internationale. Guillaume Nodin, bonjour.
Bonjour Adrien, bonjour à toutes et à tous.
Expliquez-nous ce qui s'est passé.
Oui, c'était l'une des premières décisions de l'administration Trump. Le premier jour, suspendre toute l'aide internationale hors aide d'urgence et aide humanitaire, le temps d'évaluer les programmes et de prendre une décision sur leur avenir. Cette décision, le juge Amir Ali a décidé de la bloquer. Il la bloque parce qu'il explique qu'il n'en comprend pas la logique. Il se demande en quoi il est nécessaire pour procéder à des évaluations de tout stopper net des contrats avec des entreprises et des organisations qui se retrouvent privées de financement. Il s'interroge aussi sur la légalité de la mesure et se demande de quel droit une administration bloque des financements qui ont été votés par le Congrès, c'est quand même sa fonction principale, lors d'une précédente législature. Le juge Ali, nommé par Joe Biden, demande à l'administration qu'elle montre qu'elle se soumet à sa décision d'ici à mardi. Parallèlement, un autre juge bloque pour au moins une semaine la décision de l'administration de démanteler de fait l'USAID, l'agence américaine pour le développement international. Vendredi dernier, 97% du personnel de l'agence a été placé en congé administratif sans salaire. Le juge s'interroge sur la sécurité du personnel à l'étranger. Des employés en poste en RDC se décrivent comme abandonnés en période de pillage et de violence politique.
RFI Washington, c'était Guillaume Nodin.
Et Donald Trump qui fait toujours autant réagir dans le monde. En Asie, par exemple, les droits de douane annoncés par le nouveau président américain font l'effet d'une bombe.
Exemple à Taïwan, dont l'indépendance est menacée par la volonté chinoise d'envahir l'île. Le président taïwanais cherche à s'attirer les faveurs des États-Unis. Lei Ching-2, élu il y a plus d'un an, semble prêt à céder aux volontés de Washington. Les explications de Nicolas Rocca.
Taïwan a volé notre commerce de semi-conducteurs. Quelques heures après ces accusations de Donald Trump et une menace de hausse de 100% des droits de douane sur les exportations de puces électroniques taïwanaises, Lei Ching-2 a cherché à désamorcer toute tension avec Washington.
Ce qui est important, c'est que le gouvernement taïwanais veut renforcer la coopération avec les États-Unis dans le développement de l'intelligence artificielle, la fabrication de semi-conducteurs et créer une nouvelle ère de partenariat économique stratégique entre Taïwan et les États-Unis.
L'entreprise taïwanaise TSMC, leader mondial sur les semi-conducteurs de pointe, doit déjà construire 3 nouvelles usines aux États-Unis. Mais pour s'attirer les faveurs de Washington, Lei Ching-2 a annoncé une initiative de partenariat démocratique mondial, excluant de fait la Chine, afin de solidifier les chaînes d'approvisionnement de cette technologie essentielle. Autre secteur clé, autre annonce du président taïwanais, la défense.
Nos dépenses de défense militaire représentent 2,5% du PIB. On va d'abord les augmenter à 3% avec un budget spécial.
Une hausse qui devrait se traduire en achat d'armes américaines. Les États-Unis sont de loin les premiers fournisseurs d'équipements militaires de Taïwan.
Alors si Taïwan fait les yeux doux aux États-Unis, le président brésilien lui déclare qu'il y aura réciprocité de la part de son pays face à l'augmentation des droits de douane sur l'acier annoncée par le président américain. Il n'y a aucun doute, il y aura réciprocité, déclare Luis Ignacio Lula.
L'actualité en Afrique à présent. Tout d'abord, la situation en RDC.
Où plusieurs sources nous signalent la présence de combattants de l'AFC M23 à l'aéroport de Kavumu, situé à 35 km au nord de Bukavu. Un porte-parole de l'armée confirme que les combats se poursuivent aux abords de l'aéroport. Ils sont déjà à l'aéroport, mais les affrontements continuent dans les environs, déclare le porte-parole de l'armée. Le gouverneur de la province, contacté par RFI, affirme avoir convoqué un conseil de sécurité en urgence. Par ailleurs, une source gouvernementale indique que Félix Tshisekedi, le président de la RDC, va écourter son séjour à Munich pour rentrer à Kinshasa dans les prochaines heures.
La Cour d'appel d'Abidjan confirme la condamnation à perpétuité des 4 accusés dans le procès de l'attentat de Grand Bassam.
Cette attaque djihadiste perpétrée le 13 mars 2016 dans cette station balnéaire proche d'Abidjan a causé la mort de 19 personnes. Les 4 hommes sont accusés d'avoir notamment hébergé des auteurs de l'attaque et d'avoir aidé au repérage des lieux. Leurs avocats annoncent pourvoir en cassation.
Plus de détails dans 20 minutes sur Radio France Internationale. En France, 2 jours après une explosion à la grenade dans un bar de Grenoble.
Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était sur place dans la cité iséroise pour présenter ses solutions afin de lutter contre le banditisme et le narcotrafic. Alors, hasard du calendrier, puisque ce déplacement était déjà prévu de longue date et il y avait Victorien Villaume comme un air de déjà-vu.
Ville différente, mais discours très similaire. Il y a 3 mois, c'était à Marseille que Bruno Retailleau listait ses solutions contre le narcotrafic. À Grenoble, le ministre de l'Intérieur dresse toujours le même constat dramatique.
C'est une déferlante, notamment de drogue. Aujourd'hui, un tsunami blanc même. Le narcotrafic, ce sont à la fois des enfants soldats et des enfants victimes.
Et livre le même message de fermeté.
L'idée qui doit nous guider, c'est de faire du combat contre le narcotrafic et la criminalité organisée la même chose que ce que nous avons fait pour le combat contre le terrorisme, avec des résultats.
Le ministre qui a récemment annoncé sa candidature à la présidence de son parti, Les Républicains, s'affiche sur le terrain intéressé par les problèmes des Français. Bruno Retailleau rappelle qu'un texte de loi contre le narcotrafic poursuit sa navette parlementaire.
Il s'agit de reprendre le contrôle de l'espace public. Bien sûr, sur la voirie, dans les halls d'immeubles, mais aussi avec des fouilles dans les parties communes, dans les caves, pour chercher de la drogue, pour chercher des produits de contrebande, des CIA et de contrebande, pour chercher des armes.
Pour le premier flic de France, cela mettra du temps, mais l'État français obtiendra une victoire contre le narcotrafic.
Un reportage de Victorien
Guillaume. Justement, cette importante saisie de drogue à Paris.
Nous l'apprenons à l'instant, 5 personnes présentées ce soir à un juge d'instruction en vue de leur éventuelle mise en examen après la saisie de 240 kilos de cocaïne cette semaine à l'aéroport Charles de Gaulle. Toujours en France, mis sous pression dans l'affaire dite de Betaram, l'actuel Premier ministre François Bayrou rencontrera demain samedi l'association des victimes de cet établissement scolaire. Le parquet de Pau mène l'enquête depuis un an sur une centaine de plaintes visant des faits présumés de violence, d'agression sexuelle et de viol commis dans ce collège Notre-Dame de Betaram dans les Pyrénées-Atlantiques. Le maire de Pau affirme ne pas avoir eu connaissance de tels faits. Nous avons appris dans la journée que le pape François est à l'hôpital. Il est hospitalisé à Rome, officiellement pour une bronchite. Âgé de 88 ans, le pape François a accumulé ces dernières années de sérieux problèmes de santé.
Allez, tout autre chose dans ce grand journal avec cette chanson qui inonde les réseaux sociaux depuis maintenant des semaines.
Un Sigma Boy vu plus de 77 millions de fois sur YouTube. Sigma Boy serait un instrument de propagande russe. L'eurodéputée allemande de centre-gauche, Nella Reil, qui préside la commission culture et éducation au Parlement européen, l'a alerté cette semaine. La députée européenne accuse la chanson de véhiculer une vision du monde toxique, patriarcale et pro-russe. Carlotta Morteo.
Rythme entêtant, ultra viral, Sigma Boy est l'œuvre de deux fillettes de 11 et 12 ans, Svetlana et Masha, drapées dans des fourrures roses et vertes. dans un savant mix de russe et d'anglais. Cette chanson, un peu trop sexuelle pour des pré-adolescentes, raconte grosso modo comment aguicher un Sigma Boy. Cette expression, popularisée par un suprémaciste américain, est censée décrire un homme solitaire, mystérieux, rebelle, mais non moins viril et puissant que son pendant opposé, le mâle alpha, extraverti et dominant. Cantonné pendant des années au blog masculiniste, le terme Sigma Boy s'est propagé au sein de la jeunesse occidentale grâce à cette chanson reprise dans des millions de vidéos TikTok où des stars de la K-pop et autres influenceurs partagent leurs petites chorégraphies sur Sigma Boy. Le centre ukrainien de lutte contre la désinformation a été le premier à alerter sur cette chanson qualifiée d'outil de propagande russe. C'est de la russophobie pathologique, se défendent les autorités russes, qui saluent le succès de cette chanson, symbole, je cite, de la puissance douce de la culture russe, le dernier tube du soft power du Kremlin.
Et puis, juste avant de refermer ce journal, nous avons appris le décès de Carlos Diéguez, l'un des plus grands cinéastes brésiliens, figure emblématique du mouvement Cinéma Novo. Dernier souffle de cet homme aujourd'hui à l'âge de 84 ans, en 2012 notamment, et il avait été le président à Cannes du jury de la Caméra d'Or.
Justement, le cinéma brésilien qui est particulièrement à l'honneur dans le festival de cinéma du moment qui se passe à Berlin, c'est la Biennale. Vous écoutez Radio France Internationale, il est maintenant 19h passé de 16 minutes. L'actualité sportive avec vous, Thomas de Saint-Léger. Commençons par du football avec le retour aux affaires courantes pour les joueurs de Brest. Quasiment éliminés en Ligue des Champions après leur défaite, 3-0, c'était mardi contre le PSG. Les Bretons vont pouvoir se concentrer totalement sur le championnat dès ce soir.
Oui, Ligue des Champions ou pas, la fin de saison ne manque pas de piment quand même pour ces Brestois. Ils sont engagés d'abord en Coupe de France avec un quart de finale abordable face à Dunkerque à la fin du mois. Et puis, leur situation s'est nettement améliorée en championnat. 8e à seulement 6 points du podium, les hommes d'Éric Roy peuvent regarder plus haut, pourquoi pas vers les places européennes, à condition de bien digérer cette défaite face au PSG et d'assurer ce soir, surtout, contre le club d'Auxerre en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Éric Roy.
Pour les jambes peut-être un peu vite, pour les têtes des fois c'est pas plus mal de rejouer rapidement aussi. Donc voilà, je pense que le match de Paris, ce qui est douloureux c'est surtout le score, parce que 3-0 ça fait encore lourd, et sincèrement par rapport aux efforts, par rapport aux attitudes des garçons, l'état d'esprit qu'ils ont mis dans ce match-là, on a le sentiment de ne pas être trop récompensé, mais voilà, il faut continuer à avancer. Maintenant, c'est pour ça que ce match-là il est très important d'Auxerre.
Éric Roy, l'entraîneur du Stade Brestois, avant la réception d'Auxerre ce soir à partir de 19h45, temps universel.
Le football, c'est également en Angleterre, puisque, allez, on prend un peu d'avance ce soir sur la 25e journée.
Avec une affiche, mais une affiche intéressante, entre Brighton 10e et Chelsea 4e, match important, surtout pour les Blues, dans la bataille du podium. Et puis en Allemagne, avant le choc au sommet Bayer Leverkusen, Bayern Munich, demain, Leipzig 4e du classement également, joue à Augsbourg ce soir.
Voilà pour le foot. Le tennis à présent et le numéro 1 français, Hugo Humbert, qui s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Marseille.
Après une victoire en deux manches aux dépens de l'Italien Lorenzo Sonego, Hugo Humbert affrontera en demi-finale le Belge Zizou Bergs. En ce moment, Daniil Medvedev, tête de série numéro 1 du tournoi, joue lui aussi pour rallier le dernier carré. Le Russe est opposé à l'Allemand Jan Lennard Struff et il a empoché le gain du premier set 6-3.
Et puis ce coup de chapeau à Justine Brezaz-Boucher, une médaille d'or de plus dans sa collection. Elle est devenue cet après-midi à Lenzeid, qui était en Suisse, elle est devenue championne du monde de biathlon.
Pour la 4e fois de sa carrière, la 2e en individuel, la Française a remporté l'épreuve du sprint, un titre en forme de revanche sur une saison jusque-là compliquée. Alors forcément, elle savoure au micro de nos confrères de la chaîne L'Équipe.
Je pense que c'est une des victoires qui m'émeut le plus. Ces derniers jours ont été hauts en couleur, enfin ces dernières semaines même. Et puis parce qu'il y a eu du suspense jusqu'à la fin, j'y croyais pas. Jusqu'au dernier inter, j'y croyais pas du tout à la gagne. C'est clair que le mois de janvier a été délicat, j'avais beaucoup de fatigue physique et mentale. J'ai un peu d'expérience maintenant pour savoir comment remédier à tout ça. Même si voilà, il y a des hauts et des bas, c'est le sport de haut niveau. Mais je suis un peu plus philosophe qu'avant peut-être.
Et c'est le deuxième titre en deux courses, Philippe, pour l'équipe de France dans ces mondiaux de l'Enzerai 2. Les Bleus avaient remporté le relais mixte mercredi. Prochain rendez-vous demain, le sprint masculin.
Thomas Saint-Gégé, vous lirez forcément l'équipe magazine puisque vous êtes passionné de sport. Antoine Bourlon, vous en êtes le rédacteur en chef. À la une, un duo de patineuses. C'est pas du patinage en couple, c'est un duo de patineuses et c'est une première mondiale, hein.
Tout à fait, c'est le projet entre l'américaine Madison Hubble et la française Gabriela Papadakis, que je pense tout le monde, ou beaucoup de gens en tout cas, voient, qui a été une super championne avec Guillaume Cizeron en duo. Et donc Gabriela Papadakis et Madison Hubble, qui s'entraînaient ensemble à Montréal depuis de longues années, s'étaient un peu promis d'avoir ce projet-là à un moment de leur carrière. Donc elles ont lancé ça dans un gala qui s'appelle Art on Ice, qui est en Suisse. Et donc elles patinent ensemble, elles dansent ensemble plus précisément.
Mais elles ne vivent pas ensemble. Hein, elles ne sont pas ensemble à la ville.
Tout à fait. Non. Madison Hubble vient d'être maman et mariée. C'est une histoire assez intéressante parce qu'en fait c'est inédit dans le patinage aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'est même pas autorisé en compétition, hormis au Canada, qui a changé un peu la donne en appelant ça partenaire A, partenaire B et pas fille garçon. C'est quelque chose d'assez inédit. Et il y a quelques semaines, Gabriela Papadakis, en fait, elle a écrit un manifeste, un essai, on peut appeler ça comme on veut, qui s'appelle « Et si on normalisait les couples du même sexe dans le patinage ?» où elle raconte énormément de choses.
Et votre titre qui fait référence « Et pourquoi pas ?» point
d'interrogation. Exactement, hein. Tout à fait.
Que dit la Fédération internationale ?
La Fédération internationale, ce qu'elle dit, c'est que c'est une belle démarche. Il y a aussi eu des garçons qui ont dansé ensemble, donc notamment Guillaume Cizeron avec Stéphane Lambiel. Elle dit que c'est une belle démarche, mais que ça nécessiterait, pour que ça existe un jour en compétition, un changement de règle et que c'est pas si facile que ça. Parce que historiquement, dans le patinage, danser, c'est un garçon, une fille. Pour tout ce qui est porté, enfin, c'est le couple traditionnel. Et d'ailleurs, c'est ce que Gabriela Papadakis dit, c'est que moi, depuis que je suis petite, c'est ce à quoi j'ai été habitué, c'est suivre le garçon, l'accompagner. Ou Madison Hubble dit, elle, qu'elle a pas été confrontée au même cliché. Mais voilà, en tout cas, c'est une démarche collective qui se veut de changer un peu le regard que le monde du patinage a sur deux femmes qui dansent ensemble, changer aussi un jour, elle l'espère, les règles, et que la société aussi en général, parce que ça a dérivé au-delà du patinage, normalise aussi le fait que deux femmes puissent être ensemble sur un terrain de sport ou dans la vie d'ailleurs, même si elles ne sont pas ensemble.
C'est donc la couverture et plusieurs pages consacrées donc à cette histoire. Et puis cette enquête qui s'intéresse au plus grand mystère de l'Everest. Alors, il faut remonter le temps et ça nous ramène en 1924, hein.
Ouais, tout à fait. En 1924, il y a deux tarés britanniques, si on peut dire ça, qui sont partis à la conquête de l'Everest. Première fois, donc George Mallory, qui est un alpiniste ultra célèbre, a échoué avec le décès de d'ailleurs plusieurs Sherpas. Mais ils ont retenté. La grande question, c'est que aller à cette époque-là, donc en 1924, équipés comme ils le pouvaient.
Ouais, c'était des chaussures en laine et puis trois épaisseurs.
Et du tweed notamment. Ouais. C'est que la personne qui était le plus proche d'eux a perdu leur trace visuelle à 240 mètres du sommet. Donc après, on a su qu'ils étaient décédés, mais on n'a jamais su s'ils étaient arrivés au sommet. Plusieurs décennies plus tard, des gens ont prouvé qu'ils étaient bien arrivés au sommet de l'Everest. Mais depuis 100 ans, 1924, des gens cherchent à savoir si Irvine et Mallory ont bien atteint le sommet de l'Everest, ce dont on n'a toujours aucune certitude aujourd'hui. Ah,
mais il n'y a pas des éléments de preuve ?
Il n'y a pas d'éléments de preuve. La grande question, c'est que Andrew Irvine possédait sur lui un appareil photo Kodak, avec notamment la pellicule à l'intérieur. Kodak a toujours assuré que si on retrouvait la pellicule, du fait qu'elle soit congelée, on puisse un jour la développer. Et donc, on pourrait avoir la preuve qu'ils sont bien allés au sommet. Et il y a plein de petits éléments comme ça, comme un cold case, notamment le fait que George Mallory avait promis à sa femme de déposer une photo au sommet de l'Everest. Et le jour où on a retrouvé son corps, il n'avait plus la photo. Donc, est-ce qu'il l'a vraiment déposée? Voilà, c'est comme un...
Ou emporté par le vent, hein.
Voilà, exactement.
Ça souffle là-haut.
Tout à fait.
Hein, plus du 8000 mètres d'altitude.
Donc voilà, il y a plein de petites histoires. Et le fait est que cette enquête continue puisqu'on a retrouvé le pied de Andrew Irvine à l'automne dernier. Les gens espèrent, et notamment une expédition menée par National Geographic, espèrent retrouver son corps et surtout son appareil photo pour... peut-être retrouver la pellicule, la développer et savoir s'ils sont bien allés.
Oui, c'est une longue enquête, ça se lit comme un roman d'ailleurs. Hein.
Voilà, c'est l'idée.
Avec des corps momifiés, des photos d'archives, etc. Autre forme d'exploit, alors ça nous ramène à aujourd'hui, c'est celui réalisé par un rappeur qui a trouvé original de faire la promotion de son album avec une série d'exploits.
Voilà, tout à fait. En fait, c'est le rappeur Riles, que beaucoup de gens connaissent depuis quelques années. Il s'est fait connaître en publiant un morceau par semaine en 2017. Et donc là, pour son nouvel album, il a décidé de courir 24 heures Donc c'était à l'Espace Comines à Paris, 24 heures, avec dans le dos...
Sur un tapis. Hein.
Sur un tapis, évidemment, avec deux scies circulaires dans le dos. Lui a dit que c'est une métaphore d'un peu des souffrances de la société qui pousse les gens à continuer malgré la fatigue et tout ça. Donc voilà, il a couru 24 heures d'affilée, donc il a réussi son défi, c'était le week-end dernier. Un défi qu'on a pu suivre en immersion, photographier.
Il lui a fallu 3 ans d'entraînement pour arriver à cela.
Ouais, tout à fait, même s'il avait jamais couru plus de 12 heures, c'était son maximum, donc il savait pas vraiment dans quel état ça allait le mettre. Et c'était aussi toute la source du défi, c'était de savoir jusqu'où il pourrait aller. Et c'est intéressant parce que le monde du sport l'a accueilli de façon très différente. Certains ont trouvé ça assez intéressant, d'autres ont trouvé ça assez ridicule. Dans notre papier, nous, on a appelé 2 ultra-trailers. On relève d'ailleurs à une vraie source d'admiration, ils se comparent pas du tout à eux. Et ils racontent que c'est, oui, courir 24 heures d'affilée, c'est un exploit quand même sportif.
Et cela, Antoine Bourlon, donc rédacteur en chef de l'équipe magazine, est à lire sous le titre 24 heures dans son propre enfer.
RFI Soir. Philippe Le Caplain.
Le monde en question à présent, comme tous les vendredis à cette même heure sur RFI. Décryptage des initiatives et déclarations de Donald Trump depuis son retour au pouvoir, notamment contre les institutions multilatérales. Pardonnez-moi Bruno Darroux. Première question, sommes-nous en train d'assister à l'effondrement de l'ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale ?
Eh bien, en tout cas, cet ordre fondé sur des institutions internationales et multilatérales est sérieusement ébranlé par les coups de butoir de certains dirigeants issus de régimes autoritaires comme Vladimir Poutine ou de systèmes démocratiques comme Donald Trump. L'ordre créé en 1945 avec la création de l'ONU et de nombreuses autres organisations avait pour but d'éviter ou d'atténuer les conflits entre États en s'appuyant sur un corpus de principes regroupés sous le terme de droit international. Depuis cette époque, cet ordre a plus ou moins bien fonctionné. Il n'a pas empêché de nombreux conflits, mais les institutions n'étaient pas globalement contestées. C'est cela qui a changé depuis une quinzaine d'années et qui s'accélère aujourd'hui avec une ONU quasiment impuissante, attaquée par certains pays, soit pour être inefficace, soit pour défendre les intérêts du monde occidental. Et avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, le retour d'une confrontation entre empires russes, américains, chinois et la préférence systémique accordée à la négociation bilatérale.
Autre question, comment expliquer cette détestation de Donald Trump pour le multilatéralisme ?
Eh bien, il y a au moins 2 raisons qui expliquent ce positionnement. Il pense d'abord que ces organisations sont lourdes, inefficaces et bavardes. Dans son logiciel d'homme d'affaires, tout cela ne peut conduire qu'à des demi-mesures, voire au statu quo. La deuxième raison, c'est que Trump pense que les États-Unis payent beaucoup trop pour les autres au sein de ces organisations. Qu'il s'agisse de l'ONU ou de l'OTAN, le refrain est toujours le même. Nous payons trop, il faut rééquilibrer tout cela, d'où sa décision également de suspendre l'aide à l'étranger via USAID. Et puis enfin, il est sur un mode viriliste, sur le thème « on va se parler d'homme à homme, à deux, entre personnes importantes, et cela fonctionnera ». Ça n'a pas été vraiment le cas lors de son premier mandat avec Xi Jinping ou Kim Jong-un, mais il recommence, cette fois, avec Vladimir Poutine. Le résultat, c'est que le représentant de la première démocratie du monde s'aligne sur des positions qui mettent à mal les principes du droit international, notamment sur les frontières, et assume cette loi du plus fort au mépris de ses alliés et en permettant du coup aux dirigeants autocratiques de penser qu'ils peuvent eux aussi s'en prendre à tel ou tel territoire en quasi-impunité. Oui, le multilatéralisme est moribond, la loi de la jungle ou du Far West, comme on voudra, revient à grands pas et laisse augurer des temps bousculés.
Analyse et commentaires de Bruno Darroux pour Le Monde en question. À suivre l'actualité en Afrique avec la situation qui évolue d'heure en heure à Bukavu, en République démocratique du Congo. Afrique Soir, c'est maintenant dans une minute.
Pour écouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr. Ce samedi sur RFI, Éco d'ici, Éco d'ailleurs,
Bruno Faure.
Le bitcoin autour de 100 000 dollars. Les cours des crypto-monnaies battent des records. Un phénomène économique et politique qui, malgré les risques liés à leur volatilité, attire les investisseurs du monde entier. Les cryptos sont-elles l'avenir de la finance ? On en parle avec leurs supporters et des spécialistes.
Éco d'ici, éco d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Comment RFI établit-elle la hiérarchie de l'information ? Avons-nous plus parlé du passage du cyclone Chido à Mayotte ou au Mozambique ? Choisissons-nous systématiquement d'insister sur l'actualité négative ? Vous nous posez la question.
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval. Tout à l'heure à 19h41 sur RFI.